Bienvenue à Rio de Janeiro. Ce n'est pas la vie mouvementée d'un aventurier que je vais vous raconter, mais bien celle d'un empereur, Pedro II, le dernier empereur du Brésil. On le sait peu, mais cet immense pays, grand comme 15 fois la France, a été dirigé par un empereur pendant 58 ans, et il n'y a pas si longtemps, puisque son règne prendra fin en 1889. Alors que partout ailleurs, en Amérique du Sud, fleurissent les républiques, le petit Pedro II, âgé de 6 ans, hérite du trône le plus exotique de la planète. Son pays est alors pour beaucoup une terre inconnue. De la Guyane à l'Argentine, des rives de l'Amazone aux chutes d'Iguassou, en suivant les côtes de l'Atlantique. Pedro II n'est pas un prince aux idées réactionnaires, bien au contraire. Il aime la solitude, mais il adore la compagnie des livres. C'est un esprit curieux, ouvert. Et s'il s'échappe de temps en temps pour l'Europe, c'est pour aller rencontrer les hommes qu'il admire, Victor Hugo ou Louis Pasteur, qui deviennent ses amis. Le progrès par l'éducation, voilà bien son credo. Et s'il y a une tâche qu'il ne supporte pas dans les mœurs du Brésil, c'est bien l'esclavage. Pedro fera tout pour faire supprimer ce qu'il appelle la honte de l'Empire. C'est cet empereur moderne, humaniste, timide et discret qui va nous emmener maintenant à la découverte du plus étonnant des empires. Nous allons découvrir ensemble des bibliothèques et des chapelles chargées d'or à Rio, la capitale de l'époque. Des grandes plantations de café héritées du Brésil colonial, mais aussi le palais impérial de Petrópolis, la cité magnifique et légèrement désuète où flotte encore au-dessus des jardins l'âme de toute la cour de l'empereur Dom Pedro.
Vous écoutez Secret d'Histoire, Pedro II, le dernier empereur du Brésil. Première partie.
Dom Pedro du Brésil, Pierre II pour les Français, est un homme qui n'a absolument rien de brésilien ni de portugais.
Guy Gauthier, historien.
C'est un grand garçon blond, aux yeux bleus, à la mine assez pâle. En réalité, cela se conçoit puisque sa mère était une archiduchesse autrichienne, l'impératrice Marie-Léopoldine.
Ce qui a frappé tous ses contemporains, c'était sa taille.
Pierre Léglise Costa, historien.
On sait qu'il avait 1m90.
Il a un air un peu las, une très grande barbe qui a blanchi très vite.
Michel Faure, historien.
Son premier trait de caractère a été la timidité, une certaine réserve.
Ce qui donnait de lui une impression de froideur et de distance que probablement à l'intérieur de lui-même il n'avait pas, mais qui était sa protection.
Un monarque du 19e siècle, comme Dom Pedro du Brésil, est souvent en uniforme parce que c'est le chef des armées. On le voit aussi en tenue d'amiral, parce que le Brésil a des côtes considérables, n'est-ce pas, et des grands fleuves qu'il faut défendre. Il porte aussi, et souvent, y compris d'ailleurs en miniature sur les vêtements civils, la toison d'or. Ceci étant, ce n'est pas un fanatique des décorations, et ce n'est pas non plus un fanatique des uniformes. C'est un homme qui préfère être en frac, etc., pour être beaucoup plus libre.
Il ne surchargeait pas sa tenue vestimentaire, au contraire, par souci démocratique. Il voulait être un homme comme tous les hommes, même s'il ne l'était pas.
Depuis 1843, l'empereur Pedro II est marié avec l'impératrice Thérèse Christine de Bourbon-Sicile. À l'époque, le mariage de l'empereur des Tropiques, âgé de 18 ans, avec cette princesse napolitaine qui descend de Louis XIV et des rois d'Espagne, a donné lieu à d'intenses négociations.
Pour un empereur du Brésil, c'est magnifique, ça tisse des liens avec l'Europe. Mais enfin, c'est pas vraiment une très jolie femme pour un si bel empereur, parce que lui, c'est un beau gars.
Non seulement il espérait avoir une jolie épouse, comme il espérait avoir une épouse qu'il aimerait passionnément. Toute sa vie, il a attendu quelqu'un avec qui il partagerait tout.
Et on va envoyer un portrait de cette princesse qui est grandement enjolivée, n'est-ce pas ? Et Pierre, voyant ce portrait, va dire « D'accord, oui, un oui timide, oui, tant qu'il ne l'a pas vu. »
Le mariage est donc célébré à Naples par procuration, en l'absence de Pedro resté au Brésil. Et ce n'est que 4 mois plus tard, après avoir traversé l'Atlantique, que la nouvelle impératrice fait son entrée dans la baie de Rio. Sous les acclamations des Carioca, elle rencontre pour la première fois son époux.
Et très protocolairement, il est allé sur le port, allait l'accueillir, elle sortait du bateau.
Et il a un choc terrible.
Il s'est effondré sur une chaise en disant « Elle ne ressemble pas du tout au portrait que j'ai eu et elle ne me plaît pas du tout. »
Il va la saluer, bien entendu, mais il va tourner très vite le dos. Il a été à peine poli.
En fait, cette dame était boiteuse, était un peu grassouillette, n'avait pas le visage de Madone que le portrait peint qu'on lui avait envoyé laissait supposer.
Il va voir sa gouvernante, qui est toujours là, Marina de Verna, et il va le dire, « Dadama, ils m'ont trompé. »
Et c'est en particulier Dadama qui a obtenu de lui qu'il s'intéresse à sa femme, car il ne voulait même pas la toucher.
C'est un homme d'honneur. Il respectera profondément son épouse.
Au fur et à mesure des années, ils se sont bien entendus. Il y avait une espèce de complicité entre eux. Elle le soutenait, elle lui a donné quand même plusieurs enfants.
Et ce qui est extraordinaire dans ce couple mal assorti, eh bien, c'est que ce couple impérial, il va plaire aux Brésiliens. Un bel empereur plein d'allant, dynamique, et une princesse qui, elle, va se consacrer au peuple brésilien. Thérèse Christine va adopter le peuple brésilien. C'est une femme de cœur. C'est ce que Pierre aimera tout le temps chez sa femme. Cet amour pour le peuple brésilien qui n'est pas son peuple d'origine et cette générosité fabuleuse.
Si Dom Pedro réside généralement au palais de Saint-Christophe à Rio, sa résidence préférée se trouve à Petrópolis. Une petite ville située dans les montagnes boisées de la Serra dos Sorgaos, à 60 km de la capitale. Dès qu'il le peut, l'empereur s'installe dans ce palais à taille humaine en compagnie de son épouse et de ses deux filles, les princesses Isabelle et Léopoldine.
Il a construit cette maison comme une maison de campagne, en l'adaptant à son goût.
Mauricio Vicente Ferreira, directeur du musée impérial.
Ce n'était pas un homme riche. Il n'avait pas beaucoup de biens et cette maison en est l'exemple type. Elle est simple. Et si nous la comparons avec la résidence d'un monarque européen, on peut voir qu'elle est très petite et qu'elle n'a rien d'un somptueux palais. L'emploi du temps de Dom Pedro II était très strict. Il se levait à 5 heures du matin, buvait un café, prenait son petit déjeuner et s'adonnait à une série d'activités comme la lecture ou la marche. Il avait deux itinéraires à Petrópolis, la grande promenade et la petite promenade. Il échangeait avec les gens qu'il rencontrait, car Dom Pedro II était une personne très appréciée dans la ville de Petrópolis.
À Petrópolis, loin de l'agitation de Rio, Pedro II peut s'adonner aux joies simples de la vie de famille.
Normalement, la famille déjeunait à 9 heures et dînait vers 17 heures. Les menus de l'empereur et de la famille étaient tirés d'un livre de recettes intitulé « Le cuisinier impérial ». Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il parvient à fusionner une cuisine européenne, en particulier française, avec des produits et des ingrédients de la cuisine brésilienne. Il y avait par exemple un ragoût de pâtes de pigeon.
Il y avait un contraste avec la somptuosité de la vaisselle, de l'argenterie, de la décoration, avec la frugalité du repas.
Francisco Vieira, historien.
Et la rapidité dont l'empereur mangeait, ça se attirait l'attention toujours.
Adolescente à Petrópolis, la princesse Isabelle se plaint dans un passage de son journal intime qu'on ne lui ait servi que des sardines en boîte et des pommes de terre. En fait, la princesse Isabelle se plaignait de la frugalité du régime auquel elle était soumise au palais impérial.
Thank you.
pour assurer l'éducation des princesses Isabelle et Léopoldine, le couple impérial a fait appel à une Française née au Brésil, la comtesse de Barral. Une forte personnalité qui, vous allez le voir, ne laisse pas l'empereur indifférent.
Elle a un joli teint, elle est gracieuse, elle est élégante, comme savent l'être les aristocrates françaises à l'époque.
Son père était un diplomate, elle a grandi en Europe, en France, elle a fréquenté la cour de Louis-Philippe.
Elle a l'esprit français, vivacité, curiosité intellectuelle, et c'est vrai que cette gouvernante-là va être, pour Dom Pedro, son âme sœur. La comtesse de Barral est la jumelle intellectuelle de Dom Pedro II.
On raconte que la princesse Isabelle a demandé à sa mère, l'impératrice, pourquoi son père, l'empereur, touchait tout le temps le pied de la comtesse du Barral pendant les leçons. Il y a des lettres, des messages très sensuels, très érotiques. Il faisait des allusions au corps, au cou, au bras, ou des baisers, ou des rencontres amoureuses qu'ils avaient eues. C'était un peu évident qu'ils ont eu un rapport charnel. Son grand amour et sa grande amitié pour toute la vie a été la comtesse de Barral.
Aux yeux de Pedro II, la comtesse de Barral, une des femmes les plus élégantes du Brésil, représente un modèle dont il rêve pour son pays.
Pendant tout le règne de Pedro II, il y a la préoccupation de civiliser. Et civiliser, ça voulait dire européiser. Donc, l'élite brésilienne a complètement changé sa façon de vivre, de se porter, de s'habiller. Par exemple, les dames ont changé le léger robe de coton pour de lourds crinolines, pour du velours, pour le damas.
Nous savons que les magazines de mode arrivaient à Rio de Janeiro entre 28 jours et un mois après leur publication en Europe. Ces magazines arrivaient au Brésil accompagnés d'échantillons de tissus, ce qui permettait aux commerçants et aux modistes de reproduire les patrons à partir de cette documentation.
Et comme au Brésil, les pierres précieuses sont abondantes, les parures d'aigues marines, d'émeraudes ou de diamants sont également très appréciées de la haute société.
La famille Carneiro Leão, qui c'était des grands commerçants d'esclaves à Rio, quand les femmes se réunissaient, on disait que leurs bijoux pouvaient payer la dette étrangère que le Brésil avait.
Au palais, les bijoux étaient utilisés exclusivement lors de cérémonies ou d'activités plus formelles. À ces moments-là seulement, les bijoux sortaient de leurs écrins.
Pierre II vit assez enfermé dans ce palais, où bien sûr il reçoit les gens, il reçoit d'ailleurs le peuple assez régulièrement, je crois deux fois par semaine.
Il suffit d'être habillé décemment pour pouvoir avoir accès à l'empereur et lui demander audience.
Qui veut lui parler, il est ouvert, y compris des esclaves viennent le voir pour lui parler de leurs problèmes. Donc c'est à la fois un souverain qui se veut ouvert à son peuple et qui est donc un peu introverti quand même tout au long de son règne.
Le bureau de l'empereur était sa pièce préférée, l'endroit où il lisait et admirait les étoiles lorsque le temps le permettait. C'était aussi l'endroit où il poursuivait ses recherches et où il dormait à la fin de sa vie, car il se consacrait plus que jamais à la lecture et à ses études.
Une grande partie de la journée était la journée de travail en tant qu'empereur. Mais dès qu'il y avait 2 heures, 3 heures, 4 heures de livre ou une soirée, c'était pour lire.
Il est abonné à toutes les revues européennes et américaines, ce qui est très important pour un monarque sud-américain. Il est très loin de l'Europe.
Il s'intéresse à l'archéologie, à la géologie.
Sébastien Roseau, historien.
À l'ethnographie qui se développe, notamment du Brésil. Et c'était un très grand polyglotte aussi. s'était intéressé au sanskrit, il parlait aussi l'hébreu, il s'est fait connaître pour ses traductions, il écrivait de la poésie.
Il y a là toute une volonté de connaissance du progrès et de la modernité qui est très impressionnante, très en avance même sur son temps, je trouve, pour un homme d'État.
Chaque année, à la belle saison, l'empereur Pedro II quitte la chaleur étouffante de Rio pour se réfugier dans sa résidence d'été qu'il fait édifier à partir de 1843. Toute la cour le suit, si bien que naît une petite cité impériale à laquelle il va même donner son nom, Pétropolis. Son palais est édifié dans le plus pur style néoclassique, aux murs colorés et qui rappelle quelque peu tous les palais royaux d'Europe. De façon étonnante, la fondation de l'Empire du Brésil est due à Napoléon. Lorsque notre empereur envahit le Portugal en 1808, la famille royale du Portugal se réfugie au Brésil. Et pour la première fois, les Braganças mettent le pied sur cette gigantesque colonie, fleuron de leur empire planétaire. Le coup de foudre est immédiat, au point que Dom Jean VI du Portugal, le grand-père de Pedro II, songe même à établir définitivement la couronne dans ses possessions du Nouveau Monde. Mais reprenons l'histoire. À la chute de Napoléon, le roi Jean VI, grand-père de notre Pedro II, peut enfin retrouver son trône à Lisbonne. Mais avec le Brésil, tout se complique, car les Brésiliens sont désormais soucieux de voler de leurs propres ailes. C'est alors que Jean VI a une idée géniale. Il abandonne la régence du Brésil à son fils aîné, à charge pour lui de proclamer l'indépendance du pays et de s'en faire le premier souverain. Le 12 octobre 1822, le duc de Bragance, donc prince héritier du trône du Portugal, devient donc le premier empereur constitutionnel et défenseur perpétuel du Brésil sous le nom de Pedro Ier.
C'est un homme râblé, brun, le poil noir, le regard extrêmement dur. C'est un aventurier, c'est un chasseur de fauves, un chasseur de femmes, un homme extrêmement vivant.
Il se laissait porter par ses passions, par son esprit un peu violent.
On l'appelle longtemps le jeune homme, avec un peu de mépris parfois d'ailleurs. Il aime bien se promener à cheval avec un simple chapeau de paille. Il salue les passants. Il joue de la musique, il joue de la guitare, c'est lui qui composera l'hymne du Brésil sur un piano. Donc il a un côté musicien, un peu artiste.
Pedro Ier est marié avec la princesse Marie-Léopoldine de Habsbourg. Le couple a eu 7 enfants, dont le prince héritier Pedro, né en 1825. Ce qui n'empêche pas le fringant empereur de mener la grande vie dans les mauvais lieux de Rio.
Pedro Ier, effectivement, ne recule devant aucun obstacle, si j'ose dire, pour conquérir une femme. Il use évidemment du prestige qui lui revient en tant qu'empereur fondateur du Brésil indépendant.
Et c'est vrai que les Brésiliennes sont belles. Il a dû avoir des relations avec des esclaves, avec des bourgeoises, avec tout ce qu'on peut imaginer, les aristocrates portugaises, etc. Ce qui crée un véritable problème avec une impératrice comme Marie-Léopoldine, qui est bafouée constamment. Un jour, il choisira une maîtresse attitrée, et là, pour cette femme-là, ce sera la fin de tout. Et ce sera Domitila de Castro, une femme magnifique, une des plus belles plantes du Brésil, des plus belles fleurs du Brésil, qui va être une maîtresse officielle.
Pedro Ier fait de Domitila une marquise et l'installe dans un palais néoclassique à la dernière mode.
La maison se trouve à portée de vue de l'empereur, à seulement 2 pas de son palais de Saint-Christophe.
Douglas Fasolato, directeur de la Casa Marquesa de Santos.
Lorsqu'il aperçoit des carrosses devant l'entrée, il envoie quelqu'un pour savoir qui se trouve chez la marquise. Ce qui attire beaucoup l'attention, ce sont les motifs en forme de cœur au-dessus des portes et des fenêtres. Certainement une allusion aux 7 ans de romance du couple. Au cours de toutes ces années, la belle marquise de Santos est devenue une femme très influente parce qu'elle jouissait d'un grand prestige auprès de l'empereur.
a imperador, tinha muito prestígio. No tempo da Marquesa de Santos,
à l'époque de la Marquise de Santos, la maison recevait de nombreux invités, courtisans, grands noms de l'Empire, tant à l'occasion des fêtes que pour obtenir des faveurs. Dans l'une des salles sont représentés les quatre continents. Dans la cage d'escalier, les quatre saisons. Des dieux de l'Olympe sur les plafonds et sur les murs, quelques peintures de scènes galantes.
Très épris de la marquise, Pedro Ier néglige son propre couple, ce qui n'est pas sans conséquence sur la famille impériale.
L'impératrice Marie-Éponine est une figure tragique un peu de l'histoire. C'est une femme qui aimait son mari. Elle a été abandonnée, elle s'est recluse au palais avec ses enfants, qui étaient son seul bonheur. Mais la succession des maîtresses, et surtout la maîtresse principale, a profondément meurtri cette femme. Et pour moi, elle est morte de consomption, elle est morte de neurasthénie en 1826, laissant ses enfants tout petits, et notamment Dom Pedro II, qui avait un an.
Devenu orphelin, le petit Pedro trouve un réconfort en la personne de la nouvelle femme de son père, la princesse Amélie de Leuchtenberg, qui ressent une grande affection pour lui. En revanche, sur le plan politique, les difficultés s'accumulent.
Le Brésil est traversé de secousses telluriques. Un grand nombre de provinces veulent prendre leur indépendance. Elles essayent de copier ce qui se passe dans toute l'Amérique espagnole qui a explosé complètement. Voilà. Donc Pierre se bat comme un vrai militaire sur le champ de bataille pour maintenir ses provinces dans le giron de l'Empire.
Autre problème à gérer, le Portugal. Ayant hérité du trône à la mort de son père, Pedro Ier y installe sa fille aînée sous le nom de Marie II. Mais en 1831, la petite reine, âgée de 11 ans seulement, est renversée par un coup d'État. Ulcéré, Pedro Ier décide alors de partir au secours de sa fille.
Il est toujours resté portugais dans son cœur. Et pour lui, c'est très important. Tenir la couronne du Portugal est essentiel.
Pierre Ier est un homme extrêmement sanguin. C'est aussi un homme chevaleresque. Il se dit, bon, mais je m'en vais, je vais défendre ma fille, la restaurer, et après nous verrons ce qui se passera. Il abdique la couronne du Brésil en faveur de Pierre II, Dom Pedro II, qui a à peine 5 ans.
Déjà orphelin de mère, le jeune Pedro se voit désormais abandonné par son père, qui s'embarque en compagnie de sa femme, l'impératrice Amélie.
Ça a été un déchirement pour Amélie. Elle a écrit une lettre sur le bateau qui allait partir, et elle dit au petit, « Je ne t'ai pas réveillé parce que tu dormais comme un ange, etc. » Voilà, elle va quitter ce gosse, voilà, et elle dit je confie cet enfant à toutes les femmes du Brésil. Et ça, c'est un truc magnifique, quoi. Du coup, curieusement, la classe politique et le peuple, se sentant aussi abandonnés, eh bien, vont faire corps avec ce gamin de 5 ans. C'est extraordinaire. Au lieu de proclamer la République, comme toute l'Amérique latine, elle est entièrement républicaine, eh bien, non. Ils vont faire corps avec le petit. Ils vont le protéger. Et ça, ça a sauvé l'Empire du Brésil.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeaux. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras et Tim Dombouche. Avec la voix d'Isabelle Benadj.